présentation, c'est d'essayer de dresser une espèce de synthèse des défis, tels que je les vois en tout cas, qui se posent à l'ONU dans le futur. Maintenant, c'est clair que résumer les défis de l'ONU en 15 minutes, mettons que c'est un gros défi. Et c'est une tâche certainement qui ne peut pas être réalisée autrement que de manière superficielle. L'idée directrice que je voudrais essayer de maintenir pendant ma présentation, c'est que les défis de l'ONU sont nombreux et compliqués. Et malheureusement, on doit avouer que l'ONU n'est pas condamnée au succès. Ma présentation va être divisée en trois parties. D'abord, je vais faire quelques remarques d'introduction. Après ça, je voudrais parler de ce que j'appelle des défis transversaux, ou on pourrait aussi dire systémiques. Il y en aura quatre. Ensuite, je parlerai de défis thématiques. Il y en aura quatre. Et puis, je conclurai. Donc, en guise d'introduction, permettez-moi de faire trois remarques de mise en contexte. D'abord, il me semble que si on veut réfléchir aux défis de l'ONU de demain, on peut d'abord se demander, demain, ça veut dire quoi? Est-ce que ça concerne le court terme, et des enjeux comme par exemple la nomination du prochain secrétaire général en 2016? Est-ce que ça concerne le moyen terme, comme l'échéance des objectifs de développement durable qui est prévue pour 2030? Ou est-ce que ça concerne le long terme, comme peut-être la fin du siècle? Ici, j'ai choisi de réfléchir sur le moyen terme, mais je veux que tout le monde comprenne que c'est un choix qui est absolument arbitraire. Ensuite, il ne faut pas oublier que quand on parle de l'ONU, il y a deux choses à distinguer. L'ONU des États membres et l'ONU de la fonction publique internationale. Et dans ma présentation, j'ai choisi de réfléchir surtout sur l'ONU de la fonction publique internationale, mais encore une fois, c'est un choix pleinement arbitraire. Enfin, je pense que c'est important de souligner que parler des défis de l'ONU, ce n'est pas une question technique, c'est une question politique. Si vous demandez à un candidat à l'investiture républicaine aux États-Unis ce qu'il pense des défis de l'ONU, bien, vous n'aurez pas la même réponse que si vous posez la même question au président du Zimbabwe. Autrement dit, ni moi, ni personne, pas même Charles-Philippe, ne peut répondre à une question sur les défis de l'ONU d'une manière qui serait soi-disant neutre ou objective. Alors, ces mises en contexte étant faites, permettez-moi maintenant de présenter ce que je vois comme étant les grands défis transversaux, ou encore une fois, pourrait-on dire, systémiques, qui se pose à l'ONU. Le premier de ces défis-là, pour moi, c'est que l'ONU doit reprendre sa place sur la scène internationale. Aujourd'hui, on célèbre le 70e anniversaire de l'ONU, et c'est un anniversaire qui est marqué par la déception et par la morosité. Il y a beaucoup d'observateurs qui s'entendent pour dire que, dans la plupart des grands dossiers internationaux, l'ONU est de plus en plus marginalisée. Depuis 10 ans, Ban Ki-moon a choisi d'exercer son rôle de secrétaire général de façon beaucoup plus discrète que ses deux prédécesseurs. Et pour moi, l'ONU, le monde en fait, a besoin d'une voix onusienne beaucoup plus forte. Donc, un défi de l'ONU, c'est de redevenir plus audacieuse et de retrouver le leadership politique qu'elle a perdu. Pour répondre à ce défi-là, l'ONU doit mieux exploiter ses avantages comparatifs. L'ONU possède un réservoir de légitimité absolument unique, parce que c'est la seule organisation universelle avec un mandat global. Et donc, l'ONU doit miser sur cette légitimité pour faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire proposer des idées et susciter des débats. Deuxième défi transversal de l'ONU doit accompagner le processus de transition du pouvoir international qui est actuellement en cours. Tout le monde sait que l'Occident est en train d'être surpassé par le monde en développement sur le plan économique. David Malone l'a encore brillamment répété dans sa conférence de lundi dernier au Corinth. Or, l'ONU doit adapter ses idées et ses pratiques au bouleversement du monde qui se déroule sous nos yeux. L'ONU a toujours été dominée par les Occidentaux et cette situation-là ne pourra pas durer indéfiniment. En clair, l'ONU devra faire plus de place aux pays du Sud et à leurs valeurs. L'ONU devra se voir moins comme le porte-étendard de la civilisation et plus comme un forum de dialogue intercivilisationnel. Troisième grand défi. L'ONU doit combattre le manque de ressources financières auxquelles elle fait face. L'ONU doit d'abord et avant tout lutter contre ce que j'appelle l'idéologie du « small government » et l'espèce de lubie, à savoir qu'on peut toujours faire plus avec moins. Parallèlement, l'ONU, je pense, doit militer pour la création d'un mécanisme mondial de taxation. On a déjà parlé d'une taxe sur les transactions financières internationales, d'une taxe sur les ventes d'armes, d'une taxe sur le pétrole. Et je pense que l'avenir de l'ONU dépend beaucoup du sort de ces projets-là. Finalement, quatrième grand défi transversal, qui rejoint d'une certaine façon les propos de M. Normandin, l'ONU doit construire de nouvelles coalitions internationales. Évidemment, dans ces coalitions-là, les principaux partenaires de l'ONU seront toujours les États. Mais l'ONU doit faire des efforts pour élargir ce que j'appelle son fan club traditionnel au-delà des Norvèges et des Suèdes de ce monde. En particulier, l'ONU a du travail à faire auprès des pays émergents qui sont tout à fait prêts à jouer un rôle international plus grand. À côté des États, l'ONU a intérêt à créer davantage de coalitions avec d'autres organisations internationales, notamment des organisations régionales comme l'Union européenne, l'ASEAN ou l'Union africaine. Enfin, c'est là que je rejoins M. Normandin, l'ONU a aussi intérêt à se rapprocher de la société civile entendue dans son sens le plus large, incluant donc les gouvernements sous-nationaux. Elle a donc intérêt à se rapprocher de la société civile plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est sûr que la société civile n'a pas toutes les réponses, mais elle peut certainement aider l'ONU à se poser les bonnes questions. Après avoir parlé de ces défis que j'appelle transversaux ou systémiques, permettez-moi de parler de quelques défis thématiques qui se posent à l'ONU. Il y a quatre thèmes que je voudrais mentionner. La sécurité, le développement, les droits humains et la gouvernance multilatérale. Commençons par la sécurité. Sur le plan des idées, l'ONU doit, je pense, continuer à défendre une définition de la sécurité qui va au-delà des questions militaires. Ce que je suggère ici, c'est en fait de continuer à militer en faveur de la sécurité humaine. Au cours des 20 dernières années, il y a un point important qui a été fait avec les programmes de peace building, mais l'ONU doit aller beaucoup plus loin dans cette direction-là. Par ailleurs, toujours sur le plan de la sécurité, un autre défi majeur de l'ONU, c'est de relancer les discussions sur le désarmement. C'est seulement en baissant les dépenses militaires que le monde va être capable de faire face aux problèmes du développement et de l'environnement. En matière de développement, maintenant, le premier défi de l'ONU, c'est bien sûr d'assurer le succès des objectifs de développement durable, dont l'échéance est 2030. En particulier, l'ONU devra garder un œil attentif sur l'objectif 10, qui concerne les inégalités, et sur l'objectif 13, qui qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Parallèlement, un autre défi très important, ce sera de convaincre les pays du Nord de la nécessité d'un nouveau Bretton Woods, c'est-à-dire la nécessité d'une réforme en profondeur du système économique international. Ça fait au moins 25 ans que l'idée d'un nouveau Bretton Woods est dans l'air, et un jour ou l'autre, il va falloir que cette idée-là aboutisse. Je passe maintenant au domaine des droits humains. Dans le domaine des droits humains, le principal défi de l'ONU, on l'a dit dans le panel précédent, c'est de passer du discours à l'action. Au fil des ans, l'ONU a adopté des textes juridiques qui couvrent à peu près tous les droits imaginables. Aujourd'hui, la tâche de l'ONU, c'est de mettre en œuvre tous ces beaux textes-là. C'est sûr que pour réussir dans cette entreprise, un défi complémentaire, ce sera de renforcer les capacités institutionnelles de l'ONU dans le domaine des droits humains. Ici, on retourne à la question des ressources financières dont j'ai parlé tout à l'heure. Finalement, quelques mots sur le défi de la gouvernance multilatérale. Au chapitre de la gouvernance multilatérale, le premier défi de l'ONU, c'est de faire aboutir la réforme du Conseil de sécurité. On dit parfois que de cette réforme, que c'est une réforme qui est nécessaire, mais impossible. Or, si elle demeure impossible, c'est sûr que l'ONU va perdre de plus en plus de sa légitimité et de son influence politique. Un autre défi, toujours au chapitre de la gouvernance qui se pose à l'ONU, c'est de trouver un nouveau modus vivendi avec le secteur privé. Il faut savoir que depuis 20 ans, l'ONU s'est beaucoup rapprochée du secteur privé à travers toutes sortes de partenariats. Selon moi, ce rapprochement-là peut certainement avoir des avantages, mais en même temps, il comporte des dangers évidents. Le principal danger, c'est qu'il risque d'orienter la définition onusienne du bien commun dans un mauvais sens. Pour conclure, je dirais que, manifestement, j'espère que vous serez d'accord avec moi, l'ONU a beaucoup de pain sur la planche pour les prochaines années. Il faut reconnaître que son succès est loin d'être assuré. Et pour s'en convaincre, on n'a qu'à penser à ce qui est arrivé à la Société des Nations en 1940. En même temps, il y a au moins une raison qui permet d'être optimiste, parce que, comme le rappelait M. Normandin tout à l'heure, si l'ONU n'existait pas, il faudrait l'inventer. Merci.